Bonsoir Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La situation humanitaire est alarmante à Bria, ville du centre de la Centrafrique, vidée de ses habitants où de violents combats entre milices ont fait une centaine de morts il y a une semaine, selon l'ONG Médecins Sans Frontières. Les besoins sont énormes en termes de latrines ou encore d'accès à l'eau, quand 40 000 des 47 000 habitants se sont déplacés dans la ville ou dans ses environs à observer Mumuza Moindo de retour de Bria, où il était coordinateur de projet pour MSF depuis janvier 2016. Le président camerounais Paul Biya a signé hier des décrets nommant de nouveaux généraux au ministère de la Défense. Celui qui est aussi le chef des armées a d'abord décidé d'envoyer à la retraite 6 généraux de division, soit 3 de la gendarmerie nationale et 3 de l'armée de terre. Paul Biya a par la suite signé des décrets nommant 11 colonels au grade de général de brigade et général de brigade aérienne. Manassé Abouya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala, explique le sens de ce chamboulement.
Ce réajustement des effectifs au niveau de l'armée intervient au moment où quelques généraux avaient atteint l'âge limite de rester en fonction. Ces généraux ont été justement passés à la deuxième section, qui est synonyme de mise en retraite, mais le langage codé au niveau de l'armée est celui du transfert à la deuxième section. Cela a absolument permis au président de la République de nommer de nouveaux généraux dans les différents corps d'armée, notamment l'armée de terre, l'armée de l'air et puis la gendarmerie. Naturellement, il faut y voir un calendrier qui va être très 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 chargé. Cela peut donner à lire un agenda politique qui permet effectivement de faire bouger les lignes dans tous les secteurs d'activité. Parce qu'il y a 4 jours, c'était l'enseignement supérieur. C'est le tour de l'armée aujourd'hui. Et certainement, les prochains jours vont réserver des réajustements importants dans tous les secteurs de la vie politique, de la vie sociale au Cameroun.
L'universitaire camerounais Manassé Abouya Ndong. En RDC, pas de festivités aujourd'hui pour les 57 ans d'indépendance. Le président Joseph Kabila a annulé son discours de circonstance pour des raisons de santé. Les autorités appellent la population à plutôt commémorer la date du 30 juin dans la méditation. Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ce n'est pas la première fois qu'on arrive le 30 et que les Congolais réfléchissent sur leur sort. Je pense que ce sera un bon moment et une belle journée de méditation. Vous avez suivi que depuis un certain temps, il y a quelques mois où la récolonisation s'annonce, il est grand temps de s'arrêter pour réfléchir. Lorsqu'on vous considère plus comme un État souverain, vous devez vous arrêter de réfléchir. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour défiler, il y a un temps pour réfléchir, pour s'interroger d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où nous allons.
Basile Olongo, vice-ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité. Le président français Emmanuel Macron à Bamako, au Mali, dimanche, pour assister au sommet du G5 Sahel. Paris entend apporter son soutien à la force conjointe de ces 5 pays, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, contre la menace djihadiste. Le président français compte annoncer dimanche les modalités exactes de ce soutien, qui consistera surtout en équipement, selon l'Élysée. Paris se dit également déterminé à faire ce qu'il faut pour que cette force soit opérationnelle sur le terrain vers le début de l'automne, avant d'élargir les demandes de contribution au-delà de l'Europe en fin d'année, au début 2018. La mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, prend officiellement fin aujourd'hui après 13 ans de présence dans le pays. L'ONUCI a été déployée en février 2004, 2 ans après le début de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Abdourahmane Dia.
La chef de l'ONUCI, Aïcha Toumine Daoudou, a fait ses adieux au président ivoirien Alassane Ouattara après avoir assisté à une cérémonie de descente du drapeau de l'ONU à son siège en présence du ministre ivoirien de l'Intérieur. Ahmed Bakayoko a remercié l'ONUCI pour avoir, dit-il, contribué au retour et au maintien de la paix. De son côté, Mme Mindaoudou a expliqué que le départ de l'ONUCI ne signifiait pas pour autant la fin de l'implication de l'ONU dans la consolidation de la paix. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de crises politico-militaires marquée par la séparation du pays en deux de 2002 à 2011 après un coup d'État manqué contre le président Laurent Gbagbo. La crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois, a constitué l'épilogue de cette décennie sanglante. Mme Mindaoudou a indiqué dans une interview à Jeune Afrique que la réconciliation est un processus long dans tous les pays qui sortent de crise Elle a appelé les autorités judiciaires à juger les auteurs de violations graves des droits de l'homme.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie iranienne Mohamed Javad Zarif a qualifié aujourd'hui de vraiment honteux le décret anti-immigration du président américain Donald Trump visant des ressortissants de 6 pays musulmans, dont l'Iran. Ces restrictions d'entrée aux États-Unis sont entrées en vigueur à minuit, temps universel ce vendredi. L'interdiction censée prévenir l'arrivée de terroristes étrangers, selon l'administration Trump, empêche temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de Syrie, Libye, d'Iran, du Soudan, de Somalie et du Yémen, ainsi qu'aux réfugiés du monde entier. Et c'est la Cour suprême américaine qui a décidé que ces mesures sur l'immigration peuvent être partiellement appliquées en attendant qu'elles statuent en octobre, au mois d'octobre, sur leur constitutionnalité. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a contacté à Silver Spring, dans l'état du Maryland, Maître Joseph Fa, il est avocat et spécialiste de l'immigration.
Par rapport à la recevabilité des dossiers au niveau de la Cour suprême, il faudrait que les juges de la Cour suprême acceptent. Ce n'est pas de droit, il faudrait qu'ils acceptent parce qu'on appelle le certiorari pour accepter le statut sur l'affaire. Et effectivement, ils ont accepté de statuer sur l'affaire. Et en acceptant de statuer sur l'affaire, il y a une partie du travel ban qui va entrer désormais en vigueur à partir de cette nuit. Et lorsque la Cour va reprendre session en octobre, ils vont statuer donc sur le reste de la constitutionnalité de ce travel ban par rapport à tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été décidé par les cours inférieurs.
Alors, vous l'avez dit, cette mesure entre en vigueur partiellement. Qu'est-ce qui va changer?
Ce qui fait que on a 6 pays du Moyen-Orient et les 6 pays arabes, la Libye, je pense la Libye, l'Iran, le Yémen, la Somalie, et je pense qu'il y a la Syrie également. Nous avons ces 6 pays-là qui seront désormais, pas qu'ils ne doivent pas avoir accès aux États-Unis, ceux des membres de la famille, je parle de la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen, ceux qui ont des connexions aux États-Unis auront toujours la possibilité d'entrer aux États-Unis. Ce n'est pas qu'on va interdire à tous ceux-là qui viennent de ce pays de façon automatique d'entrer aux États-Unis, mais il va falloir qu'ils justifient qu'ils ont une connexion aux États-Unis. Si c'est pour la toute première fois que vous entendez parler des États-Unis et vous venez de l'un de ces pays, ce serait difficile pour vous pour avoir un visa durant la durée des 3 mois, parce que je pense que d'ici à octobre, c'est juste une question de quelques mois.
Alors, octobre est une importante échéance dans ce processus.
Oui, seulement en octobre, non seulement la mesure s'était faite pour quelques mois, ce sera expiré, mais également en octobre, la Cour suprême va statuer sur la constitutionnalité de cette décision. Alors, ça ne veut pas dire que parce que la mesure a été en vigueur, que c'est forcément constitutionnel, parce que lorsque la Cour suprême statue dessus, elle peut revenir par rapport à la décision pour dire effectivement c'était contre la Constitution. Ça veut dire que ce genre de, pour empêcher qu'on ait ce genre de reprise ou bien ce genre de loi pour le futur, il va falloir effectivement que la Cour suprême dise si ce genre d'action par le président de la République est constitutionnel.
Maître Joseph Fa, avocat spécialiste de l'immigration, nous parlait de Silver Spring dans l'état du Maryland. La Chine s'est dite aujourd'hui fermement opposée à une vente d'armes américaines à Taïwan, une île considérée par Pékin comme l'une de ses provinces. L'administration Trump a autorisé la vente de 1,3 milliard de dollars d'armement à Taïwan, dont des bombes guidées, des missiles et des torpilles, a annoncé jeudi le Pentagone. Pékin a protesté solennellement auprès des États-Unis, a souligné Lu Kang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'un point de presse quotidien.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé aujourd'hui dans la station alpine suisse de Transmontana pour insuffler un nouvel élan au pourparlers sur Chypre visant à réunifier l'île divisée depuis plus de 40 ans. Les négociations qui ont démarré mercredi sont vues par les Nations Unies et les analystes comme la meilleure chance de conclure un accord de réunification. Selon une source proche des négociations rapportée à l'AFP, M. Guterres devrait demander aux dirigeants chypriotes, grecs et turcs de prendre des décisions importante et audacieuse afin de parvenir à un accord durant cette conférence. Et pour terminer, Syrie, l'État islamique encerclé et piégé dans son fief de Raqqa, l'alliance kurdo-arabe a coupé jeudi la dernière issue permettant aux djihadistes de fuir cette ville du nord de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cependant, l'État islamique ne semble pas prêt de se rendre. Venu du centre-ville, toujours entre leurs mains, une quarantaine de ses membres vêtus de l'uniforme ont attaqué Al-Sena et Meshtleb, deux quartiers du sud de la ville. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Thank you.